Eh bien, bonjour. Nous sommes heureux de recevoir pour cette intervention sur le niveau de la vente et le prêt du livre numérique. Je crois que le public est essentiellement bibliothécaire, à peu près. Je vais vous présenter les intervenants rapidement. On n'a pas beaucoup de temps. On va commencer par eux. Elisa Boulard, qui travaille pour la société immatériel.fr. Dont la société a offert une offre envers les bibliothèques il y a peu. Elle nous en fera une présentation plus mieux que moi, sûrement. Lionel, vous n'entendez pas?
Ah, je vais donc m'ajouter dans le micro.
D'accord. ça marche mieux?
D'accord.
Donc Lionel Bujol, responsable de la médiation numérique de Romans sur Isère, qui est moi j'ai rencontré en tant que veilleur de l'actualité en bibliothèque à tous les niveaux. On trouve sa trace facilement. Ludovic Bernot, qui représente à différents niveaux, Locomodo, éditeur, diffuseur, diffuseur numérique. Voilà. Il y a de nombreuses maisons d'édition qui sont présentes. Et Stéphane Marsan, qui représente Bragelonne, qui a aussi une très grosse offre numérique, de plus en plus. Et cette journée, on va la présenter sous la problématique des... comment est-ce qu'on va pouvoir vous acheter vos livres, d'une, et comment va-t-on faire pour les prêter, de deux. Et je crois que c'est déjà un bon sujet à faire en une heure. Si quelqu'un... Si tu veux présenter une matérielle, puisque il y a une offre justement qui répond à une partie de la question.
Merci. Bonjour à tous. Moi je suis Elisa Boulard et je vais vous parler, pour commencer, je vais vous présenter immatériel.fr, notre société, notre rôle un petit peu dans ce circuit du livre. Donc nous, notre travail de distributeur, c'est de faire en sorte que les livres ou les contenus numériques, je dirais, d'un éditeur se trouvent sous les yeux du plus d'usagers et de clients possible. C'est-à-dire que on stocke chez nous fichiers, métadonnées de l'éditeur, et on travaille avec les libraires et les vendeurs au bout de la chaîne, donc aussi bien avec des libraires traditionnels, je dirais, comme Dialogue, Ombre Blanche, ce genre d'interlocuteurs, qu'avec des firmes internationales, je dirais, comme Apple, Amazon, Kobo. On travaille aussi avec la Fnac. Donc voilà, notre but à nous en tant que distributeur, c'est que les livres soient visibles dans le maximum d'endroits, et aussi en bibliothèque, parce que l'éditeur nous offre, met à notre disposition des contenus, et peu importe, je dirais, la forme qu'ils prennent, le principal c'est qu'ils soient au maximum d'endroits. Et donc nous, immatériel.fr, on a commencé à travailler sur une offre aux collectivités avec l'éditeur public.net, que vous connaissez peut-être, donc les auditions de François Bon. Et François Bon a un catalogue de littérature contemporaine d'à peu près 500 titres qu'il a voulu mettre à disposition des bibliothécaires sous la forme d'un abonnement avec une lecture en ligne. En ligne uniquement, c'est-à-dire sans téléchargement, pour une raison très simple, c'est que les contenus de PubliNet et de beaucoup de nos éditeurs sont sans DRM, et autant les contenus sans DRM ont un sens complet pour les particuliers, autant quand il s'agit de collectivités, c'est un petit peu plus touchy. Je termine. Notre offre, donc on a commencé avec public.net et on a ensuite créé une offre numérique où le principe est que la bibliothèque, donc elle-même par l'intermédiaire de son libraire, compose sa collection de livres numériques et en offre un accès illimité à ses usagers sur place ou à distance, donc à partir du catalogue qu'on a aujourd'hui qui fait à peu près 5000 titres. Voilà. Pardon, c'était long.
Je vais te poser une question parce que tout le monde, enfin je pense que le terme de DRM parle à certains, mais pas encore à tout le monde. Je veux qu'on l'explique une bonne fois pour toutes parce que ça va peut-être revenir assez fréquemment.
Oui. Pour expliquer concrètement ce que c'est qu'un DRM. Donc aujourd'hui, le DRM, donc, c'est quelque chose qui est appliqué sur les contenus numériques, voilà, sur le livre aussi bien que voilà, sur les logiciels, sur les jeux vidéo ou sur les fichiers musicaux. Le principe, c'est que c'est un verrou qu'il faut décrypter au moyen d'un compte. Pour le livre numérique, c'est la société Adobe qui gère ça. C'est-à-dire que la personne, quand elle achète, je ne sais pas, par exemple, un livre, bon, je parlais de Dialogue, on va prendre l'exemple de Dialogue. Quoi, non, Dialogue ne vend plus de contenu sans DRM, justement, parce que ça lui posait trop de problèmes. Donc, parlons de n'importe quel autre libraire. Donc, quand on achète un livre chez eux, on reçoit un fichier un petit peu bizarre, on ne sait pas trop. Ça correspond, c'est quelque chose qui s'appelle urllink.acsm. Je vous dis tout de suite là, tout de suite, le client qui achète, il ne sait pas ce qu'il a acheté. Donc, il faut que la personne se crée un compte Adobe pour qu'elle décrypte ce fichier et qu'elle puisse lire son livre, pas sur plus de 6 appareils différents. Et elle ne peut pas le prêter puisque le livre est lié à son compte. Et elle ne peut pas le lire sur tous les appareils existants. Enfin, elle peut, mais si elle s'y connaît un petit peu, si elle a envie de passer du temps dessus. Voilà.
Merci. Je peux prendre la suite.
Bonjour. Moi, je joue un peu le rôle de l'épicier à cette table, puisque je suis un éditeur, donc un vendeur de livres. Mais plus précisément, je suis un vendeur de lecture. Et je pense que c'est là déjà l'un des points majeurs de ce qui est en train de nous arriver, c'est que nous sommes en train d'apprendre tous à faire l'expérience de la lecture sur autre chose que du livre. Moi, je voudrais commencer finalement par quelques généralités, mais qu'il est parfois bon, enfin il me semble, il est bon de rappeler, je vais essayer d'être court, parce que comme on se le disait juste avant le début de cette intervention, finalement, quand on rencontre tout le monde, hein, libraires, tous les secteurs, mais en particulier les bibliothécaires, on se rend compte qu'il y a avant tout un souci et un devoir d'information et de partage d'informations avant même qu'il y ait du débat et qu'on puisse se demander ce qu'on va pouvoir faire avec tout ça. Bon. Donc je pense que la première chose que je voudrais dire, c'est que, ça a l'air bête, mais que le livre numérique est une réalité. Et si je le dis, c'est parce que j'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup de réticences inconscientes ou conscientes, involontaires ou involontaires, à ce constat-là. Donc le problème n'est plus de se demander ce que ça va devenir, n'est plus de se demander si ça va être possible, etc., etc. C'est de se demander ce qu'on va faire avec et ce qu'on est déjà en train de faire avec. C'est pour ça que je trouve que cette conférence est extrêmement utile et importante, parce que vous avez les mains dans le cambouis, vous êtes sur le terrain de la lecture et du partage de la lecture et du savoir. Et donc l'une des questions principales, c'est de savoir comment est-ce que ce que représente d'un point de vue pratique et d'un point de vue d'une certaine façon idéologique, hein, puisque c'est quand même un changement dans notre civilisation très important, hein, comment est-ce que le livre numérique va vous être utile, quel problème il va vous poser, que peut-être le livre papier ne vous posait pas, et quelles chances, quelles opportunités, quelles facilitations de votre travail le livre numérique va permettre. Moi, je suis éditeur et je pense que j'ai eu un souci quand on a commencé il y a à peu près 2 ans à développer une offre numérique chez Bragelonne, qui, je crois, doit être notre souci à tous. Ce souci, c'est de ne pas laisser passer le train. C'est de monter dedans et, si possible, d'être dans la locomotive. C'est-à-dire que si on attend et voit, si on laisse autorités économiques fondamentales s'emparer du livre numérique sans que l'on puisse vraiment nous se l'approprier et en faire ce que nous pensons devoir en faire, on va laisser passer ce train et on va franchement rater une occasion absolument fondamentale et on va en payer le prix. Quand je dis « on », c'est les éditeurs, les auteurs, les libraires, les bibliothécaires et tous les gens qui, du point de vue juridique, administratif, politique, etc., ont à cœur les questions de la lecture et du savoir et du partage de la connaissance. Donc, c'est le et si je vous le dis comme ça, si je passe un peu de temps à vous lire, c'est que franchement, je crois que c'est extrêmement important, c'est absolument crucial. Et si je crois que c'est crucial, c'est parce que on éprouve encore tout le temps, tous les jours, toutes ces réticences, ces résistances qui sont parfois tout à fait compréhensibles, qui sont tout à fait normales, qui sont naturelles, au développement du livre numérique, à la façon de se l'approprier, et tout un ensemble de peurs et d'angoisses liées à la nouveauté. Et le petit exposé d'Elisa sur le DRM, je trouve, est tout à fait éclairant là-dessus, à quel point ça peut être effroyablement compliqué et dissuasif. Donc il faut absolument s'approprier tout ça, et pour pouvoir se l'approprier, il faut en savoir le plus possible, en tout cas pouvoir en avoir une information minimale et pouvoir la comprendre. Si donc moi, éditeur, je publie du livre numérique, c'est finalement parce que je n'ai pas le choix. Parce que le développement de ce support et de cette forme de lecture aujourd'hui a déjà une présence significative. Elle est évidemment totalement inéluctable, elle va croissante. Et donc il faut absolument être là pour attraper la balle au bon et pour en faire quelque chose. La deuxième chose, c'est évidemment de réfléchir à comment est-ce qu'on peut travailler sur ça ensemble. C'est-à-dire, il ne s'agit pas, et ça a été notre choix dès le début par exemple, de mettre sur le site Bragelonne, en téléchargement, la possibilité d'acheter des livres numériques. Il s'agit de travailler par exemple avec l'immatériel, il s'agit de travailler avec toutes la forme de vente, Apple, Amazon, Fnac, etc., avec les libraires indépendants qui ont envie de le faire sur le net, les libraires qui veulent le faire dans leur boutique, évidemment les bibliothèques. Donc, c'est mon deuxième point sur lequel je veux insister un peu, enfin que je veux souligner là, c'est que c'est quelque chose qu'on peut faire tous ensemble. Et qu'il faut que nous fassions tous ensemble pour qu'on en profite tous. Et évidemment, ultimement, tout au bout de la chaîne, les lecteurs, l'enseignement, les scolaires, etc., etc. Donc voilà quelques généralités qui me semblent à rappeler ou à souligner. Le dernier aspect, je pense, c'est, alors ça c'est de la tambouille, mais c'est pas tout à fait de la tambouille, mais peut-être qu'on y viendra un peu plus tard, c'est dans les aspects concrets, il y a évidemment l'aspect technique, mais il y a aussi des aspects qui sont évidemment commerciaux. C'est, Elisa et Laurent seront à même de vous donner des pistes là-dessus, c'est-à-dire dans la mise à disposition, quelles sont les conditions financières, quel prix on peut et on doit penser, parce qu'il y a là des enjeux majeurs, baisse de la TVA, etc., etc. Et donc à la fois un aspect technique sur lequel il y a, je ne sais pas exactement par quel moyen, Laurent pourra sûrement le dire, mais comment est-ce que l'information peut être diffusée le mieux possible dans le domaine de la bibliothèque pour savoir exactement qu'est-ce que c'est, comment ça marche, mais concrètement, c'est dans les mains, c'est sur un écran, ça se donne, comment ça se partage, et ensuite, quelles sont les pistes, ça je pense que Elisa pourra nous le dire, finalement les offres commerciales, hein, il faut appeler ça... Comme il se doit, de façon à ce que vous puissiez vous approprier toute l'offre que les éditeurs travaillent à développer et à mettre à votre disposition, parce que chacun ses problèmes. Dans le problème du DRM, nous, éditeurs, on a un problème, c'est qu'évidemment, on est pour la suppression du DRM, mais les ayants droit, les auteurs, les agents, les éditeurs étrangers, etc., eux ne sont pas nécessairement d'accord, ou alors payent des avocats très chers pour nous dire qu'ils ne sont pas d'accord, et ça pose tout un ensemble d'autres problèmes.
Je voulais rebondir, donc moi je suis le bibliothécaire de la table, je souscris totalement hein, ce que on vient d'entendre. Trois points rapidement du point de vue des bibliothèques. D'une part, il y a quelque chose qui a été dit qui est très important. On ne parle pas de livre numérique, mais de lecture. C'est extrêmement important d'avoir cette approche-là, notamment avec le numérique, puisque dès qu'on parle de lecture numérique, on parle d'expérience avec la lecture sur un écran. Ça change beaucoup de choses. On va se rendre compte que, du point de vue du bibliothécaire, lorsqu'il va offrir des ressources numériques, quelle expérience l'usager va avoir avec ces ressources numériques? Est-ce que l'expérience de lecture qu'on va lui proposer va-t-elle être satisfaisante pour lui? On va se rendre compte que si on fait des offres avec des DRM, on en a sans beaucoup parlé, on est dans une expérience de lecture qui est catastrophique et qui joue à la fois contre les textes numériques, contre la lecture numérique, qui joue aussi contre nous, bibliothécaires, qui n'avons pas su proposer à nos usagers des ressources dans un confort d'accès difficile. Premier élément. Deuxième élément, du point de vue du bibliothécaire, on a parlé d'information. Nous souffrons, on voit qu'il y a une très grande réticence, notamment les bibliothécaires français, les bibliothèques publiques, en tous les cas en France, s'interrogent beaucoup autour de la lecture numérique. Qu'est-ce qu'on y va? Qu'est-ce qu'on propose? On voit qu'il y a des offres qui sont faites, on voit que ça ne marche pas très bien. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de bibliothèques qui peuvent dire qu'elles ont 25% de leurs usagers qui utilisent des ressources numériques. Mais n'oublions pas que le lecteur numérique, ce n'est pas encore 25% du lectorat en France aussi. Mais néanmoins, il y a une vraie problématique, c'est que le bibliothécaire lui-même n'est pas un lecteur du numérique. Et ça, c'est un vrai problème. Parce que comment on peut défendre des ressources numériques, une expérience de lecture numérique, si nous-mêmes, professionnels, nous n'avons pas cette expérience de lecture numérique? Et on le voit bien, le décalage, c'est qu'on pense qu'on va proposer un catalogue avec des ouvrages qui vont être téléchargés avec des DRM ou avec du streaming, enfin, peu importe, mais si nous-mêmes, nous n'avons pas expérimenté ces outils-là, comment pouvons-nous accompagner l'usager? Comment, a fortiori, puisqu'il ne s'agit pas de proposer un catalogue de ressources numériques, il faut faire la médiation, notre travail est bien là, hein, on est là pour faire, pour défendre aussi des textes et une littérature numérique. Donc si nous-mêmes n'avons pas cette expérience-là, comment pouvons-nous nous plaindre que du coup l'offre ne fonctionne pas? Ça c'est donc un deuxième élément qui est fondamental. Donc, expérience usagée, quelle expérience nous proposons de lecture à nos usagers? Je dis bien, ce n'est pas offrir des livres numériques, mais quelle expérience de lecture numérique nous proposons? Et deux, est-ce que nous, bibliothécaires, nous sommes suffisamment impliqués dans ces processus de lecture numérique pour faire des choix et pour faire un accompagnement qui est vraiment en phase avec les usagers? Ça me semble être très important. Et troisième point, j'ai posé une question qui était intéressante, c'était vendre ou prêter. Mais est-ce que aujourd'hui la solution en bibliothèque, c'est du prêt de livres numériques? Ou est-ce qu'on n'est pas encore une fois sur une notion d'accès à une lecture numérique? La différence, elle est où? C'est que lorsque je prête un exemplaire numérique, un livre numérique, et on voit qu'avec les DRM, lorsqu'une personne l'emprunte, personne d'autre peut le prendre derrière. Comment on peut expliquer à un usager qu'on ne peut pas emprunter un livre qui n'existe pas? Vous ne pouvez pas l'emprunter parce qu'il y a quelque chose là. Mais il est où ce livre? Il est numérique. Vous voyez la difficulté d'expliquer cela? Ou est-ce que plutôt on est dans « je vous offre un accès à un bouquet, à un catalogue, comme peut proposer l'immatériel, je suis connecté, j'accède à ce bouquet et je ne pourrai le lire qu'avec un écran qui est connecté. Je ne pourrai pas faire un téléchargement, sauf s'il y a des offres en off, on en parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que même si je ne suis pas connecté, je peux avoir accès au livre. » Mais bon, ça peut être technique. Vous voyez les difficultés pour nous? Nous, bibliothécaires, on fait de l'acquisition, on construit une collection, on fait de l'acquisition d'exemplaires. Mais si on fait de l'exemplaire numérique, on sait pour ça que ça ne fonctionne pas très bien, parce qu'il y a forcément derrière des DRM et l'expérience usagée n'est pas excellente. Et en même temps, si on est dans le streaming, c'est-à-dire la lecture numérique, on n'a plus d'acquisition, puisque c'est un bouquet. Donc on voit bien que ça nous interpelle, parce que comment on se positionne? Et moi, il me semble que le fondement, c'est quelle expérience de lecture voulons-nous proposer à nos usagers? Il me semble que l'une des questions est ici.
Oui, bah bonjour. Nous, on est devenu diffuseur-distributeur papier et depuis juillet numérique. Alors, moi, je travaille avec le matériel, mais parce qu'ils ne font pas de DRM. Mais par contre, ce qu'on n'a pas précisé, c'est que les livres sont tatoués. Ça veut dire que quand il y a un achat, les coordonnées de l'acheteur sont tatouées dans le livre. Et c'est beaucoup plus dur de l'enlever qu'un DRM. Mais je travaille également avec Numilog, qui appartient au groupe Hachette, qui eux travaillent par contre avec DRM, et vendent aussi en bibliothèque, parce qu'on en vend aussi beaucoup en bibliothèque. Pour moi, moi je viens de parler de vente, pour moi j'en vends autant en DRM que sans DRM. Donc le problème pour moi n'est pas forcément DRM ou pas DRM, mais plutôt sur un aspect de vente, et de laisser le choix au client de dire voilà, je joue avec DRM parce qu'il y a les protections, et ceux qui vendent sans DRM, bah, on peut les retrouver sur des plateformes en ligne en piratage où il y en a partout, et ça, en ce moment il y en a partout, on en trouve partout. Donc moi j'ai fait le choix en tant que diffuseur-distributeur de signer chez les deux et de laisser le choix au client final de pouvoir lire avec DRM ou sans DRM. Et je travaille également avec la société YouBook qui fait du streaming, donc qui va sortir bientôt là, au mois de mi-mars, donc une offre sur Apple, donc une application qu'on peut télécharger et sur un accès payant ou gratuit, lire en streaming des livres. Voilà, sur un abonnement, je crois, de 15 euros. Enfin, voilà. Donc ça permet aussi de donner accès à tout le monde à la lecture. Là-dessus, je suis d'accord. Après, sur le DRM, sans DRM, moi je dis que c'est toujours le client final qui a le choix. S'il veut prendre avec DRM ou sans DRM, c'est lui le problématique. Mais je pense qu'il faut laisser l'ouverture aux gens au lieu de leur dire le DRM c'est pas bien et sans DRM c'est bien. Chacun fait son opinion en achetant. S'il estime qu'il a acheté un livre avec DRM et que ça marche pas, eh ben, il ira acheter sans DRM.
Mais tu voudrais dire que la même offre existe, exactement la même offre
exactement
existe.
Exactement la même offre sur, je vois par exemple, un site
comme Kobos,
qui vend aussi bien avec immatériel que Numilog, les livres, du moins avec nous, qu'on diffuse et qu'on distribue, ont deux racines ISBN différentes pour bien les marquer, une sans DRM et une avec DRM, qui laisse la totalité et en accord avec Numilog et immatériel. Il n'y a aucune des deux qui est spoliée de dire voilà, j'ai choisi elle fait tant. Voilà. Chacun a ses avantages et ses inconvénients. Voilà. Avec Numilog, donc, moi je vends aussi par rapport aux bibliothèques. Donc les bibliothèques utilisent aussi les DRM. Après, c'est leur choix. Par contre, avec Numilog, on est chez Auchan, on est chez Darty, chez Boulanger, c'est des ventes où personnellement il n'y a pas de livre. Donc les gens ont quand même, quand on va chez Darty, on va juste acheter une télévision ou peu importe. Et les gens ont quand même le réflexe d'aller acheter sur des bornes des livres. Donc on voit que le livre commence à s'ouvrir de plus en plus. Alors j'espère pas qu'un jour il y aura des bornes dans les pharmacies, on ne sait jamais. Mais au moins ça s'ouvre vraiment intéressant. La librairie Doucet au Mans a une borne aussi numérique, par le biais de l'immatériel je crois. Donc c'est vrai que ça s'ouvre et ça laisse au lecteur et au client final de choisir et d'acheter son livre vraiment où il veut et d'avoir un coup de cœur, voilà, de dire là, je suis chez Darty, j'achète ma télé, j'ai mon téléphone ou mon iPad et je peux télécharger un livre ou acheter un livre. Voilà. Ça sert à ça aussi le numérique, d'avoir des livres dans des endroits où peu probable.
Juste pour, je suis entièrement d'accord, enfin ce qui est dit, les logiques, vous êtes une logique commerciale, hein, il n'y a pas de souci. Juste rappeler que les bibliothèques ont une mission de service public, de lecture publique, financée avec de l'argent public. Il ne faut pas l'oublier. Et que de ce fait, on a une mission qui est très claire, c'est d'offrir au plus grand nombre un accès au savoir et à l'information, et notamment avec des ressources numériques. Du moment où on commence à faire des choix de ressources, moi je ne suis pas, si on fait une offre DRM et sans DRM, qu'on laisse le choix, moi je suis assez... Ça me convient. Mais du moment où on est sur des offres où il n'y a plus que du DRM, là, on n'est plus tout à fait en phase avec nos missions. C'est-à-dire que nous, quelqu'un qui arrive et qui ne peut pas lire un DRM et qui paye un abonnement et on lui dit « Vous ne pouvez pas accéder à ces livres numériques » alors qu'il a payé le même abonnement que celui qui est à côté et qui, lui, peut y accéder, il y a quand même un souci en termes de mission du service public à se poser là. Mais si on donne le choix... Pas de souci.
Bien sûr.
Par contre, moi, là, je ne comprends pas ce que vous dites. Je ne vois aucun avantage à avoir du DRM. Je ne vois aucun client qui préférerait du DRM. C'est-à-dire que c'est que de l'emmerdement, ça ne sert à rien. Et l'exposé d'Elisa était tout à fait éclairant. La totalité de la production mondiale en littérature est déjà disponible, illégalement, gratuitement sur le net. Donc l'enjeu n'est pas d'empêcher le piratage, d'accord ? C'est parce que la guerre de Troie a déjà eu lieu. Et donc la question, c'est de savoir quand j'achète un truc, est-ce que je vais m'emmerder avec ou est-ce que je vais pouvoir le lire tranquillement ? Okay ? Donc le DRM, ça ne sert à rien. La deuxième chose, c'est que nous avons fait une expérience avec Alexandre Levasseur qui est éditeur digital chez nous, qui s'occupe de toute notre offre numérique, c'est que quand on a développé notre offre numérique et qu'on l'a mise sur le marché, Alexandre a contacté les sites de pirates en disant « Regardez, c'est super, maintenant on a des romans numériques disponibles. » Et la moitié des sites de pirates qu'il a contactés ont enlevé de leur site nos ouvrages qui étaient jusque-là disponibles illégalement en disant bah, « C'est plus la peine de le faire puisque maintenant ils sont disponibles, ils sont de qualité et pour un prix qui fait rire, c'est-à-dire en gros un café crème, hein, 5 euros. » Donc on n'a plus besoin de faire ça illégalement. Bravo Brajlon. Donc la meilleure façon de lutter contre le piratage, c'est d'enlever le DRM. D'accord ?
Troisième point, il est quand même beaucoup plus facile et moralement plus agréable et satisfaisant d'aller sur un site pour acheter des livres numériques que d'aller s'emmerder, encore une fois, aller sur des sites de pirates, désagréables, incompréhensibles, tous en anglais, etc., etc., pour aller chercher un bouquin qui est en général disponible en poche, qui est disponible dans une bibliothèque et de plus en plus disponible en numérique. Donc franchement, là, la question du DRM, c'est une seule chose, c'est la tentative vaine, absurde et inutile de protéger des contenus qui sont déjà disponibles illégalement par, comme je l'ai dit, des avocats qui sont payés, qui font leur travail honnêtement, hein. Qui sont payés par des groupes pour dire non, il faut pas, il faut protéger le copyright et le droit d'auteur. Évidemment, je suis pour protéger le copyright et les droits d'auteur, mais la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec. Je voudrais rappeler quand même que le mec qui a eu un coup de génie, qui a sûrement une idée qu'il avait sûrement piqué à quelqu'un d'autre, Steve Jobs, quand il a fait iTunes, ça consistait à dire tout ce qui est déjà disponible gratuitement et légalement, moi je vais le vendre. Et je vais le vendre dans de meilleures conditions, et vous serez heureux de le faire. Ça sera un prix très abordable, ce qui est une question fondamentale dans toute cette histoire. C'est-à-dire que, voilà, une chanson à moins d'un dollar ou moins d'un euro, qu'est-ce que c'est, un dollar ou un euro? Et ça a marché superbement bien. Donc la question, c'est pas le DRM. La question, c'est comment est-ce qu'on met à disposition, commercialement ou dans une démarche de service public, de la lecture, de façon à ce que les gens puissent la trouver facilement, la pratiquer facilement, et y trouver les mêmes plaisirs, voire des avantages supplémentaires, par rapport à l'habitude et la distribution du livre qu'on a eu jusqu'à présent. Je fais juste une petite parenthèse, il y a pour moi quelque chose qui me tient vachement à cœur dans les possibilités que donne le numérique, c'est les lectures en gros caractères. La lecture en gros caractères est devenue un enjeu important pour des raisons évidemment sociologiques, démographiques, etc. Ces 10 dernières années, dans les contrats anglo-saxons, il y a toujours les droits de publication en grand format, en poche, en club, en tout ce que vous voulez, et en édition en gros caractères, ce qui est évidemment très difficile à mettre sur le marché commercialement parce qu'il faudrait faire un tirage spécifique. Que le papier, c'est ce qui coûte le plus cher dans le livre, donc évidemment, plus de, des caractères plus gros égale plus de papier, etc., etc. Et évidemment, la lecture numérique est une réponse extraordinaire pour un lectorat âgé qui trouve là un avantage absolument indéniable.
Ou pas âgé, je vous la contredire.
Oui. Le presbytère. Malvoyant, disons.
Vous avez tout à fait raison.
Je voulais ajouter quelque chose. Donc, Lionel, tout à l'heure, tu as parlé d'accès et donc Stéphane a parlé de mise à disposition des contenus aux clients ou aux usagers. Je voulais juste te dire que nous, quand on a commencé à travailler avec, avec Apple, donc quand la plateforme iBookstore est sortie en France il y a un an et demi à peu près, notre meilleure vente pendant plusieurs mois, ça a été Les Fleurs du Mal de Baudelaire, c'est-à-dire le livre qui est typiquement disponible partout gratuitement sur le net. Les gens l'ont acheté sur iBooks tout simplement parce que c'était super pratique et que tout l'environnement Apple, bon je ne veux pas parler d'Apple spécialement, mais c'est juste que c'est l'important, c'est vraiment la facilité d'accès, c'est-à-dire que si d'emblée vous proposez des contenus, vous vendez des contenus qui ne sont pas très clairs ou qui ne sont pas faciles d'accès, les gens vont préférer perdre un petit peu de temps pour aller voir s'ils sont disponibles gratuitement ailleurs ou sous une autre forme ailleurs, plutôt que de perdre du temps à essayer de comprendre voilà, comment ça marche, comment je paye mon truc, comment j'achète, etc. Donc je pense que c'est vraiment cette histoire voilà, d'accès et de mise à disposition, c'est super important parce que nous, notamment en tant que distributeur, on se considère plutôt comme un distributeur d'accès à des contenus numériques, quels qu'ils soient. C'est-à-dire que si un jour un éditeur nous dit bah voilà, j'ai un dictionnaire sous forme de base de données, j'aimerais vouloir le commercialiser, le vendre en librairie ou le vendre auprès des bibliothèques, et bien nous, pour nous, c'est de l'accès, c'est simplement une URL qu'on va revendre à des, qu'on va revendre à des libraires et qui vont pouvoir mettre à disposition leurs clients. Donc je pense que voilà, juste pour dire que cette histoire d'accès, à mon avis, c'est le point important.
Alors moi, sur le chacun a son opinion pour DRM ou son DRM, hein, c'est comme pour PC ou Apple, chacun aime ce qu'il veut, hein, voilà. Sauf le café Ben, c'est 1,40€, pas 5€, monsieur Marsan.
Pardon,
le café, c'est 1,40€, hein, pas 5€.
Mais d'ailleurs, t'habites pas à Paris, toi.
Je suis désolé, le café on n'a pas les mêmes moyens. Donc voilà quoi. Donc c'est surtout ça quoi. Hein. C'est moi je parle au niveau client au bout. Je vois pas du tout DRM sans DRM. Si on propose deux offres, déjà le client est satisfait. Très peu de personnes offrent deux offres différentes du même livre. Le client en face, il n'est pas dupe. Il sait ce qu'il va prendre. Il connaît, pour la plupart, moins ceux qu'on achète, ce que c'est un DRM et sans DRM. Voilà. C'est vraiment le client final qui choisit et ça permet, ça ne spolie aucune société là-dessus, que ce soit immatériel ou numilogue, parce que c'est aussi la bataille de ces deux sociétés. Enfin, moi, une qui fait avec DRM et une autre sans. Donc voilà.
J'ai demandé à Lisa de préciser ce que c'était que les DRM, à un public qui normalement c'est un petit peu, parce que ce n'est pas connu. Ce n'est pas vrai de dire que les acheteurs qui achètent des bouquins avec DRM, ils lisent DRM. Du moment que ça les embête pas, du moment que ça les gêne pas au niveau de la lecture, c'est pas grave. Mais ils ne savent pas ce que c'est.
Sur Google, s'ils tapent DRM, c'est expliqué sur Wikipédia.
Alors, toujours pareil, les gens ne rechercheront pas. À partir du moment que ça les gêne pas, effectivement.
Non, mais moi, je ne suis pas pour ou contre. Je veux dire, DRM ou sans DRM,
ça les gênera le jour où ils voudront donner leur. Voilà, ça va les gêner le jour où ils vont vouloir faire comme avec un livre et dire « Ah tiens, il était vachement bien ce bouquin-là, je te le mets sur ta liseuse ou je te le mets sur ta table. » Ah, je peux pas. C'est et puis là, ils vont se dire « Ah merde, puis là, ils vont faire une recherche sur DRM et la prochaine fois, ils achèteront 100. »
Voilà, mais après,
parce qu'ils ne savaient pas ce que c'était.
C'est de laisser l'offre, on va dire, choisir le client final. Quoi.
Mais là, je rejoins
non, ce que tu dis. Après, s'il fait ce qu'il veut, je veux dire, c'est…
Mais quel est l'intérêt des DRM? C'est sûr. Quel est l'intérêt
moi, des DRM? Moi, je vois par rapport moi en tant que diffuseur, j'en vends autant en DRM et sans DRM. Le marché est là. Je veux dire, il y a les chiffres parlent. On en vend autant avec DRM, sans DRM. Le jour où, en passant par immatériel, je vends 8 fois ce que je vends chez Numilogue avec DRM, là, je pourrais dire effectivement, le client préfère sans DRM. Pour l'instant, c'est du 50-50.
Juste pour dire qu'en bibliothèque, hein, quand même, on a quelques retours d'expérience, toutes les bibliothèques qui ont fait des choix de plateforme de prêt de livres numériques avec des DRM, c'est un constat d'échec. À tel point que les grandes bibliothèques aujourd'hui sont en train de revenir en arrière et d'abandonner ces plateformes parce que justement derrière, l'expérience qui est proposée derrière la lecture est tellement contraignante qu'on met beaucoup d'argent public sur ces ressources-là pour très peu utiliser. Ensuite, on vend plus de DRM que sans DRM. Il faut juste voir la quantité. Quelle est l'offre aujourd'hui de livres numériques avec DRM et quelle est l'offre aujourd'hui de livres sans DRM? Et après, on fait un pourcentage. Vous avez sur 10 livres, vous en avez 8 avec DRM et 2 sans DRM. Forcément, il y en a un peu plus avec DRM qui sont vendus.
Ouais, je voulais ajouter quelque chose concernant ce que tu disais au niveau du fait que tu vendais autant avec DRM que sans DRM. En fait, Numilogue et Immatériel ne desservent pas les mêmes plateformes. Ce qui fait que nous, par exemple, on n'est pas chez Auchan ou chez Darty, donc les gens n'ont pas le choix. C'est-à-dire qu'ils ont que du DRM, ils ne savent pas forcément qu'il y a une version sans DRM qui est vendue ailleurs. D'autre part, pour rajouter quelque chose d'expérience, je dirais, concernant les DRM, donc nous, on a une petite librairie numérique en fait où voilà on teste un petit peu les pratiques d'achat des gens, ce qui se vend, etc. Et on a constaté qu'il y a beaucoup de personnes qui achètent du livre numérique sans forcément y avoir pensé avant, c'est-à-dire qu'elles cherchaient tout simplement une référence. Elles ont vu que c'était disponible en numérique immédiatement, sans frais de port, sans livraison, etc. Donc super génial. Et moins cher, un petit peu moins cher. Bon. Voilà, mais des fois, quand quelqu'un cherche vraiment un livre, je pense qu'il ne regarde pas vraiment au prix. S'il en a besoin et qu'il peut l'avoir tout de suite, il l'achète. Et donc on a constaté qu'à ce moment-là, donc c'est des gens qui n'étaient pas forcément partis, familiers, pardon, de la lecture numérique. Donc au moment où ils constatent qu'il y a des DRM, parce que c'est quand même souvent le cas, on a un rapport de 1 sur 4, je veux dire, quand il y a 4 ventes de livres avec DRM, il y a une personne qui nous contacte pour nous dire « je ne sais pas comment ça marche, qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Voilà, donc c'est quand même assez important.
Énorme.
Voilà, c'est énorme. Et bon, disons qu'une fois que la personne a compris comment ça fonctionnait, bon, elle s'est un petit peu embêtée au début. Après, voilà, ça marche tout seul, je dirais. Mais c'est tellement difficile à utiliser dès le départ que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne reviennent pas ou alors qui, s'ils ont envie d'y retourner, ils chercheront du contenu sans DRM. Voilà.
Alors, concrètement, les amis, je travaille en bibliothèque, je suis responsable d'une bibliothèque médiathèque, je veux mettre à disposition de la lecture numérique. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qui est disponible? Comment ça marche? Et à quel prix?
Je t'en prie.
Bon, alors, je peux peut-être parler de l'expérience qu'on mène dans les médiathèques du Quai de Rouen, je ne vais pas généraliser, mais nous, on a fait un choix très clair. On est en cours de travailler avec Immatériel. En cours de faire une offre de ressources numériques, nous ça a été très clair. La ligne de départ c'est non au DRM. Donc ça élimine beaucoup d'offres. Nous il était hors de question d'offrir avec de l'argent public des ressources numériques qui étaient dont l'expérience de lecture était mauvaise, avec des contraintes. C'est comme si on disait à quelqu'un, vous voulez emprunter ce livre, très bien, est-ce que vous avez une voiture de couleur bleue? Non, vous ne pouvez pas emprunter ce livre. Voilà, on est dans des logiques qui sont à peu près les mêmes. Hein. Si vous n'avez pas le bon appareil, pas le bon logiciel pour décrypter, vous ne pouvez pas accéder à cette ressource. Donc déjà, on a éliminé la question. Mais c'est loin d'être facile à prendre, parce que derrière, vous avez aussi des tutelles qui vous demandent d'avoir des offres de ressources numériques, qui veulent pouvoir dire, on a un catalogue avec tant de livres numériques qui sont proposés, et qu'il faut leur expliquer, mais on ne parle pas de livres numériques, on va parler de lecture numérique. Je trouve que cette approche-là est très, très intéressante. C'est quelle expérience de lecture, encore une fois, on va proposer. À partir de là, on a vu beaucoup de choix, c'est-à-dire que le choix se réduit. Donc ça, c'était le premier élément. Deuxième élément, il y avait une question de coût. Alors, après, c'est sûr que les offres qui sont sans DRM aujourd'hui, en termes de coût, sont quand même plus intéressantes aujourd'hui, quand même, il faut le reconnaître, selon les choix qu'on va avoir pour les bibliothèques. Deuxième élément, c'était pour nous bibliothécaires, c'est pas seulement quel est le catalogue, parce qu'on va se poser, mais est-ce qu'il y a des nouveautés ou pas? Ça, c'est aussi des questions. Mais est-ce que finalement, la nouveauté, est-ce qu'on a besoin de ressources numériques qui n'ont que de la nouveauté? Est-ce que notre travail, c'est pas aussi nous, bibliothécaires, de défendre aussi une littérature numérique ou de défendre des éditeurs qui jouent le jeu de l'accès sans DRM, d'ouvrir un peu plus et que l'expérience lecture soit la plus agréable? Ça, c'est un deuxième élément. Et puis l'élément, c'était quelle expérience de médiation, nous, bibliothécaires, nous pouvons faire? Est-ce que ce catalogue, si on ne peut pas faire l'acquisition de chaque titre, mais on a un bouquet, comment pouvons-nous, nous, le défendre? Est-ce qu'on a des possibilités qui sont offertes autour de la médiation? Voilà. Et ça, ça faisait partie de nos choix. Quelle expérience pour l'usager? Quelle expérience pour le bibliothécaire? Est-ce qu'il a matière à pouvoir faire de la médiation? Et est-ce qu'il a matière, lui, de connaître l'offre qu'il va proposer? C'est ce qui a déterminé, nous, nos choix. Et vous allez voir que nous, avec cette grille de lecture, lorsqu'on a regardé tout ce qui nous était proposé, il y a beaucoup d'offres qui tombent à la corbeille, beaucoup. Mais au moins, le choix est dans une cohérence, la nôtre, hein, je ne dis pas que c'est la cohérence qu'il faut avoir, mais qui était dans ce choix-là. Pas de DRM, lecture numérique, expérience, et quelle expérience le bibliothécaire a avec ses ressources numériques.
Il reste que 5 minutes déjà, le temps passe très très vite. J'aimerais...
Excusez-moi, concrètement, je voudrais savoir, parce qu'on parle de lecture numérique, mais pour faire de la lecture numérique, il faut avoir un support. Est-ce que les médiathèques mettent à disposition des supports?
Ça, c'est une très bonne question. Est-ce que lorsque le MP3 est arrivé, on a proposé des iPods? Est-ce que lorsque les cassettes VHS sont arrivées, on a proposé des magnétoscopes? Voilà, c'est une question. Je ne sais pas si... C'est une vraie question. Aujourd'hui, me semble-t-il, des personnes se tournent vers les bibliothèques, voilà, on parle du livre numérique, on parle des liseuses, on a envie de connaître. Donc il me semble que la bibliothèque doit être un lieu où on peut expérimenter la lecture numérique. Mais s'il s'agit de dire, voilà, on vous donne une liseuse, on vous la prête pendant 4 semaines, ça se fait, hein? Ça se fait, d'accord. On la prête 4 semaines, et puis à l'intérieur, on a mis du domaine public, parce que c'est ce qui est le plus facile pour pouvoir charger. La personne prend cette... il va la manipuler, il va lire le contrat social ou Baudelaire, ok. Il va la ramener, mais très vite, il va passer... Ou là, on était bon, ok, j'ai le contenant, je l'ai. Très vite, il va vous dire, maintenant, en termes de contenu, qu'est-ce que vous allez me proposer? Elle est là, la difficulté. Parce que le domaine public, c'est intéressant. On peut proposer du domaine public. Hein. Il y a des plateformes aujourd'hui qui vous proposent le domaine public avec 2000, 3000 bouquins derrière. Mais est-ce que c'est vraiment intéressant? Lorsque je regarde l'offre de public.net, par exemple, qui a un travail d'éditorialisation du domaine public, on va aller chercher dans le domaine public des livres dont eux, ils ont considéré que c'était intéressant, peu connu. Baudelaire, c'est intéressant, mais lorsqu'on va avoir, par exemple, Boucher de Meudon qui est proposé, qui est un chef-d'œuvre apte, qui est un thriller du début du XXe siècle extraordinaire dans le domaine public, heureusement que Bibliponet était là pour le faire découvrir, et heureusement que nous, bibliothèques, on peut faire découvrir ça auprès de nos usagers. Donc, offrir du contenant, oui, le contenant des liseuses, oui, pour amorcer là-dessus, mais n'oublions jamais que la lecture numérique ne peut, et en bibliothèque, ne peut pas se limiter en un prêt de liseuse. Le prêt de liseuse, c'est le moyen de faire la promotion, de valorisation plutôt, de nos ressources numériques. Lorsqu'on revient, j'ai vu, maintenant, est-ce que je peux accéder à ce que vous avez comme ressources numériques avec la liseuse que vous me prêtez ? Y a des DRM, des collègues Jamais, vous ne pourrez pas. Bon. Ma liseuse, elle est connectée. Oui, vous pouvez vous connecter à la ressource. Voilà, c'est des questions. Hein. On tâtonne. Mais on ne peut pas limiter des bibliothèques qui ont prêté des liseuses avec un questionnaire derrière. Dans le cas de demander à l'usager de remplir le questionnaire, alors les boutons, ils étaient agréables, l'affichage, c'était... Mais le lecteur, c'est pas un testeur. On n'est pas là pour faire du lecteur testeur d'appareil. Nous, notre appareil est là pour initier, amener vers une lecture numérique. Encore une fois. Donc oui, il faut prêter des liseuses si on est dans une logique d'avancer vers une lecture numérique.
Je voulais juste ajouter quelque chose aussi, c'est qu'aujourd'hui, la lecture numérique en bibliothèque, ça peut aller au-delà des appareils. C'est vrai que tu demandais, est-ce que les bibliothèques mettent à disposition des supports, mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a l'accès distant. C'est-à-dire que si la ressource est interopérable, c'est le grand mot en ce moment dans le circuit du livre, elle peut être lue sur n'importe quel appareil, c'est-à-dire aussi bien dans les murs de la bibliothèque que chez soi, et il suffit à l'usager de se connecter. Donc aujourd'hui, pour moi, la bibliothèque, c'est aussi une place dans le réseau sur le web, et c'est plus seulement un lieu. Et ça, je pense que c'est important. Et c'est votre rôle aussi à vous en tant que bibliothécaire d'aller, je pense, dans la vie numérique des usagers, c'est-à-dire voilà, les usagers, ils vont être sur le web, sur Google, ils vont être sur Twitter. Et je pense que c'est en vous mettant en phase en fait dans cette vie numérique que mènent les gens, que vous pouvez arriver à les toucher et à faire votre travail de médiation.
J'ai pris comme principe qu'il y avait beaucoup de bibliothécaires, donc la discussion allait se diriger à ça. Vous êtes aussi des utilisateurs, et la plupart des réponses qu'il y a eu sont aussi pour des utilisateurs simples, c'est-à-dire que l'accès, les accès qu'il y a chez Immatériel, qu'il y a chez Locomodo, qu'il y a chez Bragelonne, ce sont des accès aussi auxquels vous allez avoir accès en tant que personne, pas uniquement en tant que professionnel ou éditeur ou autre. C'est vraiment une question qui va être très importante pour tous. Et comme on a décidé de nous faire ici, c'était plutôt de commencer à former nos personnels à l'utilisation avant de commencer à penser à nos lecteurs. Déjà savoir nous ce que c'est pour pouvoir en parler. Je crois que c'est déjà aussi quelque chose de très important. Je voulais aussi dire que dans la salle, il y a le représentant de Facebook France, on va dire. Et on aurait voulu l'inviter, mais il n'y arrive pas aujourd'hui. Voilà. Donc, comme là, je vais me faire couper. Si vous avez des questions, vous pourriez lui poser directement. Mais j'aurais voulu savoir si vous-même, vous aviez, il me reste encore 5 minutes, s'il y avait des questions dans la salle.
Oui, bonjour. Donc, je suis médiathécaire moi-même et la question se pose sur ma médiathèque. J'arrive des Bouches-du-Rhône, donc pas très très loin. Sur le prêt justement de liseuse. Donc ce qui m'interpelle un petit peu dans ce que vous disiez là, on parle de confort, on parle de lisibilité. Si j'ai bien cru comprendre, la liseuse a quand même des écrans adaptés pour éviter une fatigue trop importante à la lecture, ce qui n'est peut-être pas forcément le cas de lire sur un écran d'ordinateur qui n'a pas la même fonction à la base, si je ne m'abuse, sur des lectures longues notamment. Donc là on aborde la lecture visiblement sur le web, moins que sur les LISA justement, puisqu'il me semble que les LISA sont dans ce problème, cette problématique commerciale, qui est que le producteur de la LISA va être aussi le producteur du contenu, qui est le vendeur du contenu, et qu'on se trouve donc dans une problématique de restriction de choix au niveau des contenus, puisque les catalogues ne sont pas forcément très importants effectivement sur les LISA. Donc est-ce qu'il est judicieux, comme vous le disiez, de prêter ou non? C'est la question qu'on se pose nous. Et ensuite, le côté confort sur les écrans me pose problème sur les ordinateurs. Quand on parle de lecture numérique, pas sur des liseuses justement.
D'accord. Alors, deux choses. Sur la lecture en accès, ce qu'on appelle en streaming, hein, c'est-à-dire l'accès en ligne, il faut savoir aujourd'hui que toutes les liseuses qui sortent aujourd'hui sur le marché sont des liseuses connectées, pratiquement. Soit 3G, soit Wi-Fi. Alors certaines sont encore noir et blanc, d'autres couleurs, mais en tous les cas, ce qui veut donc dire que l'accès à distance en ligne aujourd'hui ne se pose plus en question d'écran ordinateur, se pose en question d'écran connecté. Ça, je crois que c'est très important de réfléchir en ces termes-là. Du moment où j'aurai un écran connecté, j'accéderai au livre, enfin, livre numérique, pour aller vite. Hein. C'est ce qu'on connaît avec la musique. Aujourd'hui, vous êtes abonné à une plateforme de musique en ligne, vous l'écoutez sur votre ordinateur, sur votre smartphone, sur votre tablette, du moment où vous êtes connecté. C'est la même problématique. Donc, je pense que là-dessus, je pense que l'histoire du confort de la lecture, de l'expérience de lecture, elle se pose moins. Mais il est clair que proposé de François Bon, hein, on a parlé il y a peu de temps dans son blog Le Tiers Livre, non, en commentaire d'un billet de blog, dans lequel il interpellait les bibliothécaires en disant « Mais si vous proposez des livres numériques en ligne que sur des écrans d'ordinateur dans vos murs, vous vous plantez. On ne lit pas un livre dans une lecture profonde sur un écran. Hein, » voilà. Même moi, les magazines, je ne suis pas convaincu avec les kiosques. Donc ça, c'est déjà un élément. Deuxième élément, est-ce qu'il faut prêter des liseuses? Encore une fois, je pense qu'on peut prêter effectivement des liseuses pour amorcer, puisque notre lieu, c'est d'essayer de que la bibliothèque soit un lieu d'expérimentation de la lecture numérique, donc d'essayer de donner matière à ce qu'il y ait une expérience autour de la lecture numérique. Mais pour moi, c'est des services qui ne sont pas pérennes. Ça va être un temps. Et encore une fois, juste prêter des liseuses pour montrer ce qu'est une liseuse, je ne suis pas convaincu. Par contre, la liseuse qui est pour prendre l'exemple, parce qu'on nous a fait un roman qui est un club de lecteurs numériques, on a un club de lecteurs numériques, on va leur mettre à leur disposition des liseuses avec à l'intérieur des ouvrages, et ils feront des critiques de ces livres qu'on va valoriser derrière. Donc, voilà. Et puis la liseuse, c'est un outil indispensable pour le bibliothécaire. Effectivement, je disais Claude, il faut acheter des liseuses pour nous, pour que nous puissions avoir accès à nos collections, et puis qu'on puisse les défendre. Le prêt, à terme, je ne suis pas du tout convaincu. Pas du tout. Sans parler de la problématique de la manutention, des plantages, des liseuses qu'il faut remettre à niveau.
Je voulais ajouter quelque chose concernant la lecture connectée, justement, parce que donc nous, notre offre, en tout cas, c'est uniquement de la lecture connectée en ligne, sans téléchargement, donc sur écran connecté, c'est-à-dire aussi mieux ordinateur qu'iPad, que liseuse connectée éventuellement. Mais c'est vrai que quand on fait... j'ai envie de dire, le seul avantage du DRM, finalement, en bibliothèque, c'est que ça peut être lu offline. On peut télécharger et, si Dieu veut, on arrive à mettre le fichier sur sa liseuse. D'accord ? Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des gros progrès qui se font au niveau du web, c'est-à-dire avec l'HTML5. Aujourd'hui, on peut trouver des systèmes qui permettent de télécharger en cache dans le navigateur le contenu de la page web ou plusieurs pages web et de pouvoir y accéder ensuite quand on n'est plus connecté. Donc, ça signifie que quelqu'un qui est dans une gare et qui va sur le site de sa bibliothèque pour récupérer un livre, il profite par exemple de la connexion de la gare, et une fois qu'il est dans le train, qu'il n'est plus connecté, il peut continuer à lire offline sur son navigateur. Donc là, il y a des gros progrès qui se font à ce niveau-là. Nous, on a déjà testé chez nous, chez Immatériel, ça fonctionne. Maintenant, il faut qu'on le travaille un petit peu, qu'on rende plus ergonomique et tout ça, mais ça marche. Donc je pense que la question de la lecture offline, c'est la prochaine étape, en tout cas pour nous, en tant que distributeur.
Moi, je pense aussi, moi je travaille beaucoup dans les quartiers sensibles. Il y en a beaucoup, quand on leur présente un livre papier, ils n'en veulent pas. On leur présente le même livre en numérique, ils prennent le livre numérique, ils prennent la tablette, ils regardent et ils commencent à lire. Le but quand même final, c'est que le lecteur en face lit et qu'on évite l'illettrisme, des choses comme ça, des gens qui ne lisent pas et qui se restent derrière des jeux vidéo toute la journée. Alors, s'ils prennent du plaisir à lire sur une tablette, prêtée ou pas par une bibliothèque, et du moment qu'il lit et qu'il n'est pas devant la télé en train de regarder soit des télés, soit une émission ou de jouer à Xbox par exemple, et qu'il est sur une tablette en train de lire, bah déjà je pense que en tant qu'éditeur, là-dessus je pense que tout le monde est d'accord, on a fait notre travail, et que le bibliothécaire qui a prêté une tablette alors que le livre, le client est réticent à lire un livre papier et qu'il lit par contre une tablette, eh ben on a fait notre travail. Donc il faut toujours laisser l'opportunité à tout le monde. Je pense que vous avez beaucoup d'enfants qui viennent dans vos bibliothèques. Et là, ils ne sont pas du tout papier et ils préfèrent chahuter dans la bibliothèque. Par contre, on leur présentait peut-être une tablette. Ils vont tourner les pages, ils vont lire. Et déjà là, on a accroché sur de la lecture.
Alors, qu'il n'y ait pas de malentendu, hein, toutes les études nous démontrent aujourd'hui, je ne parle pas des tablettes, je parle des liseuses. Les liseuses renforcent le gros lecteur. On ne gagne aucun lecteur avec les liseuses. Tablette, c'est autre chose. Les tablettes, on est sur autre chose. La liseuse, c'est un outil pour le gros lectorat. Voilà. Enfin, c'est plus juste ça, pour pas qu'il y ait de malentendu pour les bibliothécaires. Ils vont croire qu'en proposant des...
Surtout que Ludovic, je suis déçu, mais enfin, je suis plus fait de décevoir, mais on est en train de faire rentrer les jeux vidéo dans les bibliothèques.
Oui, nous aussi.
Désolé.
Je suis plus dans les bibliothèques.
Une dernière question ? Non ? Ah.
Ça y est, ça va porter ?
On a fait comme tout le monde et nous on n'a pas encore gagné, hein. On en parlait tout à l'heure, hein. On est encore en train de se débattre pour les budgets. Ce qui est certain, c'est que lorsque vous allez défendre un projet tel que de la lecture numérique et que vous avez une équipe derrière qui est concernée, c'est très important, et que ça n'est pas deux personnes mais que tout le monde dit oui, ça, on va l'intégrer dans tout notre travail de médiation, quand on va faire des bibliographies on intégrera aussi le livre numérique, etc., etc. Ça a certainement du poids lorsque vous présentez le projet. Ça, c'est une évidence. C'est-à-dire que la culture numérique au sein des équipes, c'est devenu aujourd'hui un élément fondamental pour pouvoir défendre des projets numériques. On est dans une période de restrictions budgétaires très sévères. Voilà. Aujourd'hui, les arbitrages se feront sur le numérique si on n'est pas capable de démontrer que c'est fondamental dans notre travail. Si une équipe n'est pas convaincue qu'une offrir des ressources numériques dans les conditions dont on vient de parler n'est pas essentielle, on n'arrivera pas à convaincre les budgets, parce qu'on va vous dire, ben non, mais on vous met déjà des livres pour les acquisitions papier, etc. C'est fondamental. Alors nous, à Roman, enfin, je parle de Roman, mais depuis 2006, on fait un très gros travail aujourd'hui, hein, autour du numérique, d'acculturation du numérique dans les équipes, dans les profils de poste, d'intégration, etc., etc. Et aujourd'hui, ça a donné une culture commune au sein de l'équipe qui fait que sur des projets tels que ceux-là, il n'y a pas seulement proposer des ressources numériques, mais faire de la médiation, de faire des cafés littéraires numériques, de proposer un salon numérique, ça enclenche. Et ça met du poids lorsqu'on doit défendre un budget. Alors que si c'est qu'une ou deux personnes qui portent cette histoire-là et que derrière disent « Écoutez, moi, j'ai des difficultés, je ne comprends pas », c'est plus difficile. Et ce que je vous dis là, ça paraît tout facile à dire. Hein. C'est une conquête de bibliothécaire à bibliothécaire. On est 42. Voilà. La problématique, on n'a pas formé sous le livre numérique, on a formé sur les problématiques du numérique. Hein, c'est des conférences en interne, ce sont des portails de veille en interne, enfin voilà.
J'ai réussi à gagner 5 minutes, ça sera tout. Je vous remercie de votre participation.
À vous aussi.
Merci beaucoup, c'était très intéressant, je pense. Et on va laisser la place à la prochaine table.
Merci. Merci.
Merci.